Acte 8, versets 5 à 25. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande !» Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne, de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette dernière parole de Jésus, en acte 1, verset 8, avant qu'il ne monte au ciel, trace la feuille de route de la mission des apôtres de Jésus-Christ. De manière très claire, le livre des Actes fait la chronique de cette progression géographique du témoignage rendu à Jésus. C'est le premier élément de structure qu'il y a dans le livre des Actes, mais il ne s'agit pas du seul élément de structure de ce livre. Il faut aussi tenir compte de ce que j'appellerais les 6 comptes rendus de progression de l'Évangile, qui semblent à chaque fois marquer une pause dans le récit du livre des Actes et faire un point sur la situation. Par exemple, en fait, on va voir les 6. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Chapitre 6, verset 7. L'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit-Saint. Chapitre 9, verset 31. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Chapitre 12, verset 24. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Chapitre 16, verset 5. C'est ainsi que par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. Chapitre 19, verset 20. Et enfin, ils proclamaient le règne de Dieu et enseignaient ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance, sans empêchement. Chapitre 28, verset 31. 6 marqueurs qui font le point sur la situation. Et à ces 2 premiers éléments de structure, il faut ajouter un certain nombre de parallèles que l'auteur du livre des Actes trace de manière manifestement délibérée entre Pierre dans la première partie du livre et Paul dans la seconde partie du livre. Ils accomplissent le même genre de miracle, ils rencontrent le même genre d'opposition, ils produisent le même genre de discours. Alors si on prend ces 3 éléments ensemble, ça va donner le tableau qui apparaît ici et qui est quasiment pas lisible pour ceux qui sont derrière le premier rang. Donc, juste pour dire, là, vous avez de ce côté-là, vous avez ce qui concerne essentiellement la première partie, Pierre. De ce côté-là, ce qui concerne essentiellement la deuxième partie, Paul. Et à chaque fois, vous avez trois sections qui se terminent par les comptes rendus de mission. Croissance de la parole, croissance de l'Église, croissance de la parole. Croissance de l'Église, croissance de la parole. Proclamation de Dieu sans empêchement. Et ça correspond à une progression géographique. Témoin à Jérusalem, témoin dans la Judée et en Samarie, témoin en Palestine et en Syrie, témoin en Galatie et en Asie, témoin en Macédoine et en Grèce, et témoin jusqu'à Rome. Ça nous fait 6 parties dans le livre des Actes. Et nous, nous arrivons, la dernière fois vous aviez vu ce qui se passait au tout début avec la Pentecôte, nous on arrive dans la deuxième section du livre, témoin dans toute la Judée et dans la Samarie. Alors ce qui est important pour nous ce soir, c'est de noter que l'arrestation d'Étienne, qui nous a été brillamment relatée à la fin du chapitre 6, et son discours devant le Sanhédrin, ainsi que sa lapidation au chapitre 7, eh ben, ces éléments, même s'ils se passent à Jérusalem, ça fait déjà structurellement partie de la deuxième section du livre des Actes, la section « Dans toute la Judée et en Samarie ». Pourquoi ? Parce que c'est cet événement, le discours de Étienne, qui va marquer le début de la première grande persécution de l'Église à Jérusalem. Jusqu'à présent, les apôtres avaient déjà rencontré de l'opposition. Pierre et Jean avaient été mis en prison, et ils avaient dû s'expliquer par deux fois devant les chefs des Juifs. Mais Étienne, lui, c'est le premier martyr. Là, on a le premier meurtre d'un chrétien mis à mort par ses opposants. Désormais, être chrétien, ça devient très dangereux. Et c'est pourquoi, au premier verset de notre chapitre, l'auteur du livre des Actes nous dit « Ce jour-là, donc chapitre 8, verset 1, « Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. » Cette persécution, c'est l'événement providentiel qui permet à l'évangile de se répandre hors de Jérusalem. C'est ce que nous dit d'ailleurs le verset 4. « Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. » Voilà pour le contexte. Alors ce soir, nous verrons trois choses avec notre texte. Premièrement, que l'évangile est prêché aussi en Samarie. Deuxièmement, que l'esprit est reçu aussi en Samarie. Et troisièmement, que la foi est contrefaite aussi en Samarie. L'évangile prêché aussi en Samarie, l'esprit reçu aussi en Samarie, la foi contrefaite aussi en Samarie. Premièrement, l'évangile est prêché aussi en Samarie. C'est ce que nous voyons au verset 5. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Philippe, c'est l'un des 7 hommes, à côté d'Étienne, qui a été nommé juste à la fin de la première section du livre. Et comme ça a été rappelé dans le résumé, eh bien, les deux personnes qui sont notées dans ces 7 hommes, c'est Étienne et Philippe. Étienne, début de la deuxième section, Philippe, chapitre 8. Arrivé en Samarie, dans sa ville la plus importante, que fait Philippe ? Il y proclame le Christ. Il annonce que le Messie attendu par les Juifs, mais aussi par les Samaritains, et ça, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine en Jean 4 le montre bien, il y avait cette attente du Messie aussi en Samarie, eh bien, ce Messie est advenu. Et quelle est la réponse de la population ? Verset 6, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. Ils écoutent ce qu'il a à leur dire. Pour quelle raison ? Eh bien, nous dit le verset 7, à la fin du verset 6 et le début du verset 7, à cause des signes qu'il produisait, car, verset 7, des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Les démons sont expulsés, les maladies sont chassées. On a là des manifestations un peu extraordinaires, mais elles ne devraient pas nous étonner plus que cela. N'est-il pas normal que là où Dieu annonce un nouveau message, il l'accompagne de signes qui confirment la validité de ce message ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible, les signes et les prodiges surgissent surtout lorsqu'il y a une avancée, un développement dans l'histoire de la rédemption. C'est vrai à l'époque de Moïse, qui instaure l'époque du royaume, de la théocratie, où c'est Dieu qui est le roi du peuple. C'est vrai à l'époque d'Élie et d'Élisée, qui instaure la période des prophètes. Et c'est vrai à plus forte raison de l'époque de Jésus, Dieu incarné, et de ses apôtres, ambassadeur de la bonne nouvelle du salut. Et là, il y a prolifération à ces époques-là de miracles, de prodiges et de signes. En délivrant les démonisés et les malades, Dieu montre à travers Philippe que l'évangile du Christ est la libération dont nous avons besoin. Une libération qui produit une grande joie, la même joie que celle qu'il y avait dans cette ville où Philippe prêchait le Messie et dont nous parle le verset 8. Une grande joie. Les versets 9 à 13 nous relatent même comment un certain Simon est venu à la foi. Celui-ci exerçait pourtant la magie au sein de cette ville. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. C'est le genre de cas de gars avec lequel on se dit qu'il risque d'être une entrave à la progression de l'évangile et qu'il va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir, pour maintenir les gens de sa ville sous son emprise, qui va s'opposer frontalement à Philippe et que ça va être dur pour l'évangile d'avancer dans ces conditions. Surtout que son emprise était très importante d'après les versets 10 et 11. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande !» Il s'attachait à lui, nous dit le texte, parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. C'est répété deux fois. On s'attend à ce qu'il y ait une opposition de la part de Simon, mais il n'en est rien. Non seulement leur attachement à Simon ne les empêche pas de croire Philippe, si bien qu'ils se font baptiser, mais en plus, Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Et ce n'est pas tout, puisque le verset 13 continue ainsi. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction, la même stupéfaction que les autres avaient avant pour lui, il voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Celui qui stupéfiait les autres est désormais stupéfait. Et il se comporte en véritable disciple, assidu auprès de Philippe, écoutant son enseignement, un enseignement confirmé par des signes et des miracles impressionnants. Et certainement, la conversion de Simon au christianisme a dû avoir un puissant effet sur le reste de la population. Imaginez, c'était lui qui stupéfiait les foules et tout d'un coup, il renonce publiquement au fait qu'il est une grande puissance de Dieu et dit « En fait, c'est Philippe qui a raison ». La prédication de Philippe n'en a été sans doute que plus crédible pour tous ceux qui, auparavant, s'étaient attachés aux magiciens. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est que l'évangile est prêché aussi en Samarie, et pas seulement à Jérusalem et en Judée, et que, à Samarie, l'évangile porte aussi des fruits. Alors, nous, ça peut nous paraître évident que l'évangile peut porter du fruit n'importe où, mais ça ne l'était peut-être pas pour les premiers chrétiens juifs, qui étaient culturellement disposés à haïr les Samaritains, ces sortes de demi-juifs impurs qui avaient mélangé la vraie foi avec des superstitions de païens. C'était sans doute contre-intuitif pour eux. Eh bien, ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Car, et c'est ce que nous voyons maintenant, deuxièmement, l'Esprit est reçu aussi en Samarie. Alors, je dois vous dire que ces versets, les versets 14 à 17, sont au cœur d'une controverse. Il y a en effet au moins cinq manières principales de les interpréter. Je vous propose d'en faire brièvement le tour. Il y a d'abord, premièrement, l'interprétation qu'il faut appeler sacramentaliste. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'interprétation courante de ces textes dans les églises qui attachent une importance à la notion de succession apostolique, qui disent il y avait des apôtres au début, il faut que la succession des apôtres soit continue jusqu'à maintenant, parce que là où il y a l'église, c'est là où il y a les successeurs des apôtres. Ils pensent que leur clergé est l'héritier en ligne directe de ces apôtres. Alors ce texte est utilisé de cette manière dans ces milieux-là. N'importe quel membre du clergé, donc habituellement on les appelle des prêtres, peuvent baptiser comme Philippe baptisait. Mais seuls les successeurs des apôtres, dans certaines églises on les appelle les évêques, eh bien seuls ceux-ci peuvent transmettre l'esprit par l'imposition des mains. Et on rajoute qu'ils le font en mettant de l'huile, avec onction. C'est là le rôle du sacrement de confirmation, c'est son nom, par lequel les croyants sont enrichis du don de l'Esprit. Ils sont baptisés, dans un premier temps, ils sont déjà considérés comme chrétiens, comme croyants, et seulement plus tard dans leur vie, par l'imposition des mains, au nom de l'évêque, en Jésus-Christ, eh bien, ils reçoivent le don de l'Esprit. Et ce texte est utilisé pour soutenir cette pratique. À l'autre extrémité, on va dire, du spectre des églises, il y a les interprétations de type pentecôtisante, selon laquelle la vie chrétienne normale passe toujours par deux expériences spirituelles distinctes. D'abord, la conversion, qui aboutit à la profession de foi lors du baptême, et ensuite, le baptême de l'esprit, ou dans l'esprit, qui fait passer les chrétiens à un stade supérieur de spiritualité et ou de sainteté. Alors, à première vue, quand on prend notre texte, il est facile de comprendre pourquoi ces deux manières de voir la vie chrétienne cherchent et pensent trouver un appui dans ce texte. C'est parce qu'il y a ici effectivement un dédoublement. D'abord la foi dans la parole de Dieu au verset 14, ensuite la réception de l'Esprit au verset 17, pour laquelle les apôtres ont prié au verset 15. On dirait effectivement dans ce texte qu'il y a deux stades dans la vie chrétienne, une période sans l'Esprit de Dieu, puis une expérience qui fait passer à un second stade de la vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu. Alors le problème de ces deux interprétations, à mon avis, c'est qu'elles rendent normatives, c'est-à-dire valables pour les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, quelque chose qui est présenté dans le texte même comme une anomalie. Une anomalie. C'est de cette manière, il me semble qu'il faut comprendre la précision apportée au verset 16, où il y a une sorte de parenthèse qui est ouverte en disant « En effet, l'Esprit ne leur avait pas encore été donné. » Ce délai entre la foi en la parole de Dieu et la réception de l'Esprit nous est présenté par Luc ici comme une anomalie, une exception exceptionnelle. C'est ce qu'indique d'ailleurs tout le reste du Nouveau Testament. Aucun auteur, par exemple, n'exhorte jamais ses destinataires à rechercher une deuxième expérience et à dire « Recherchez le don de l'Esprit que vous n'avez pas encore. » Et Paul montre bien pourquoi il n'est jamais demandé cela. Il le montre bien, par exemple, en Romains 8, verset 9. Il dit ceci « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Autrement dit, un chrétien qui n'a pas l'Esprit, c'est une contradiction dans les termes. Ça n'existe pas, un chrétien, sans esprit, d'après Romains 8, verset 9. Et du coup, pour moi, ces deux premières interprétations, à mon avis, il faut les écarter. Alors, comment comprendre ce que décrit Luc ici? Une troisième solution serait de dire que les Samaritains qui ont cru au début du chapitre n'ont pas initialement cru comme il le fallait. La prédication de Philippe ne leur a pas permis de sortir de leur superstition. C'est une sorte de mélange de foi chrétienne et de superstition, mais qui fait qu'on n'est pas encore à une vraie foi. Ce n'est que lorsque Pierre et Jean sont arrivés que l'évangile leur a été vraiment prêché purement. Et là, ils sont vraiment, à ce moment-là, devenus chrétiens. Alors cette solution a l'avantage de dissoudre le problème des deux étapes. Il n'y en a plus qu'une seule, c'est celle qui est décrite au verset 17. Là, ils comprennent vraiment, et là, ils deviennent vraiment chrétiens, et là, ils reçoivent l'Esprit, et tout ça en même temps. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indication dans notre passage, dans le début du texte, à part pour Simon le magicien dans la suite, que leur foi n'était pas réelle. Et surtout, Philippe, dans ce texte, semble plutôt être présenté comme un modèle par Luc que comme quelqu'un qui s'y est mal pris dans son évangélisation. Il n'y a pas de blâme de Philippe dans ce texte, c'est plutôt un exemple qui nous est donné. Et donc, pour ces raisons, je crois qu'il faut abandonner cette solution. Quatrièmement, la solution protestante classique, celle qui est proposée par Calvin par exemple, consiste à dire qu'en fait, les convertis samaritains avaient déjà reçu l'Esprit au moment où ils avaient cru, parce qu'on ne peut pas croire sans avoir l'Esprit, et qu'avec l'imposition des mains et la prière de Pierre et Jean, ils n'ont en fait fait que recevoir une manifestation supplémentaire de l'Esprit, une manifestation palpable de l'Esprit. Avant, l'Esprit était là de manière invisible, et maintenant il est là de manière visible, on va dire. Cette interprétation a l'avantage de correspondre au reste de l'enseignement du Nouveau Testament. Mais certains auteurs, comme le professeur Henri Blocher par exemple, trouvent cependant que le langage ici est trop fort pour parler d'une simple manifestation de l'Esprit. Si les apôtres prient pour qu'ils aient l'Esprit, parce que l'Esprit Saint n'est pas encore tombé sur eux, c'est que les Samaritains ne l'avaient pas encore purement et simplement. La cinquième solution, plaide Henri Blocher, a l'avantage de rattacher l'anomalie à la singularité de la situation, je cite. De rattacher l'anomalie du verset 16, le fait que l'Esprit n'est pas encore donné, à la singularité de la situation, le fait que c'est une situation anormale, justement. L'idée est la suivante. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Ils étaient deux peuples séparés, même s'ils avaient des liens très forts au niveau théologique. Et pour éviter que le schisme entre les Juifs et Samaritains continue à se prolonger dans les églises chrétiennes, eh bien Dieu a décidé souverainement, aurait décidé souverainement, de suspendre exceptionnellement le don de l'Esprit pour ne le répandre qu'en présence des apôtres de l'église juive, représentés ici par Pierre et Jean. Situation anormale et donc anomalie dans la réception de l'Esprit. Mais il y a là encore un problème. D'autres conversions comportaient des risques de division. Et pourtant, elles n'ont pas bénéficié du même type d'exception avec les apôtres qui viennent et l'Esprit-Saint qui attend quelque part pour être répandu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça profiterait aux Samaritains et non aux autres conversions problématiques. Et surtout, rien dans notre texte ne semble indiquer que la réception de l'Évangile par des Samaritains était théologiquement inconcevable pour les chrétiens de Jérusalem. Je crois qu'on lit beaucoup trop dans le verset 14 si on veut lui faire dire que Pierre et Jean ont été envoyés depuis Jérusalem par les autres apôtres par suspicion qu'il s'y passait quelque chose d'anormal. Je pense que c'est faire trop dire au texte. Dans ce chapitre 8, on voit que Pierre n'a pas eu besoin d'avoir une vision pour le convaincre d'aller chez les Samaritains, alors qu'il aura besoin d'une vision pour aller chez Corneille au chapitre 10. Et Pierre et Jean n'ont pas eu à se justifier en rentrant de Samarie, alors que Pierre devra se justifier d'être rentré chez Corneille, une fois qu'il y aura eu la Pentecôte de Césarée chez Corneille. Alors c'est vrai, les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, mais ces derniers avaient tout de même la loi. Ils attendaient eux aussi le Messie, et au moins ils étaient circoncis. Mais la suite des actes nous montre qu'il y avait bien pire que cette inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait le mur de séparation qui était dressé entre les Juifs et païens. Et d'ailleurs, ce qui est reproché à Pierre au chapitre 11, après l'épisode avec Corneille, c'est d'être entré chez des incirconcis. Et c'est les circoncis qui lui reprochent, c'est ce que dit le texte, les circoncis lui reprochèrent d'être rentrés chez les incirconcis. Et donc, s'il y avait un moment où on s'attendrait plutôt à avoir une situation exceptionnelle avec un délai, ce serait plutôt chez Corneille. Alors, voilà, j'ai fait le tour des 5 solutions. Que faire ? Pour comprendre notre texte, je crois qu'il faut prendre en compte le rôle des récits que nous trouvons dans cette seconde partie, dans cette seconde section du livre. Il y a 4 récits, du chapitre 6 au chapitre 9, il y a 4 récits qui sont 4 récits de transition du monde juif au monde païen. Premier récit, le récit du martyr d'Étienne, qui engendre la persécution, qui engendre la dispersion des chrétiens dans toute la Judée et en Samarie. Donc première étape. Deuxième et troisième récit, deuxième et troisième étape, Philippe proclame le Messie aux deux groupes qui étaient en marge du judaïsme. Donc c'était des gens méprisés par les juifs, mais qui étaient quand même acceptés comme faisant partie de la même maison, même s'ils étaient méprisés pour diverses raisons. Premier groupe, donc deuxième récit, Philippe et les Samaritains. C'est notre passage. Puis passage suivant, celui que verront certains en études bibliques, eh bien, c'est le groupe des prosélytes, c'est-à-dire les convertis étrangers, donc les étrangers convertis au judaïsme, qui s'étaient fait circoncire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dit explicitement dans le texte de la fin du chapitre 8, mais je crois que l'eunuque éthiopien qui monte adorer à Jérusalem, dans le temple, on ne peut pas concevoir que ce soit à mon avis, on peut difficilement concevoir que ce soit un incirconcis, et il faut mieux penser que ce soit un prosélyte. Et ça correspondrait bien à cette période de transition entre le chapitre 6 et le chapitre 10. Quatrième récit, pendant le temps que Philippe prêche, et les autres apôtres prêchent en Samarie et en Judée, eh bien Saul, l'un de ceux qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et qui est introduit au chapitre 8, verset 1, rencontre le Christ pour être appelé à devenir l'apôtre des païens. 4 récits de transition vers le monde païen. Il y a un décentrement du christianisme par rapport à Jérusalem qui s'opère ici et qui prépare l'expansion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce qui est important dans notre texte ici, au chapitre 8, ce n'est pas la haine entre les Juifs et les Samaritains, comme le pense la cinquième interprétation, mais c'est que pour la première fois, une barrière est franchie. C'est un premier pas vers le monde païen. Et il était bon pour cette raison que les apôtres eux-mêmes soient personnellement impliqués dans cette expansion, que la première barrière soit franchie avec les apôtres, et pas seulement avec des gens comme Étienne ou Philippe, qui étaient des gens importants, mais qui n'étaient pas les apôtres. Et donc ma proposition, c'est d'améliorer la solution 4 à l'aide de quelques éléments de la solution 5. Les Samaritains avaient déjà l'esprit, et je pense qu'il faut le maintenir, parce qu'ils étaient déjà nés de nouveau. On ne peut pas croire sans la nouvelle naissance, et personne ne peut voir le royaume de Dieu, nous dit Jean 3, s'il ne naît d'eau et d'esprit. Pas de foi sans nouvelle naissance, pas de nouvelle naissance sans esprit. Et d'ailleurs, ça veut dire que lorsqu'on voit les croyants de l'Ancien Testament, eux aussi avaient part à l'esprit, à la nouvelle naissance, parce qu'ils avaient la foi en Dieu et au Messie qui devait venir. La différence entre eux et nous, c'est que eux n'avaient pas la conscience et n'avaient pas le vocabulaire pour le dire. Et les Samaritains se retrouvent ici, dans notre passage, dans la même situation que les Juifs de l'Ancien Testament et dans la même situation que les apôtres avant la Pentecôte. Déjà croyants, déjà nés de nouveau, mais sans avoir encore la manifestation visible et le signe extérieur de l'Esprit qui leur donnerait bientôt l'enthousiasme et l'assurance nécessaire à la mission. Alors, j'ai conscience qu'on pourrait en discuter plus longtemps, mais je suis désolé, je dois m'arrêter là sur cette question si je veux traiter notre troisième point. Troisièmement, la foi est contrefaite aussi en Samarie. En résumant ainsi ces derniers versets, je prends clairement position sur un point là aussi largement débattu. Certains, première possibilité, certains pensent que le Simon de ce texte est un vrai croyant qui commet un péché que peuvent commettre tous les croyants. Et donc, nous, il faut se sentir interpellé en tant que croyant par Simon parce qu'on peut commettre le même péché. Le problème avec cette idée que Simon, c'est un croyant tout au long du passage, c'est la dureté des propos tenus par Pierre. Verset 20, « Que ton argent se perde avec toi !» J'espère que votre pasteur ne vous dit pas ça tous les dimanches. Verset 22, « Ton cœur n'est pas droit devant Dieu !» Verset 23, « Tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » J'ai personnellement beaucoup de mal à penser qu'il s'agit là d'un langage réellement applicable à un véritable chrétien. Deuxième type d'interprétation. Certains pensent que Simon est réellement devenu chrétien grâce à la prédication de Philippe, qu'il a vraiment été sauvé, mais qu'en convoitant la prérogative des apôtres de donner l'esprit par l'imposition des mains, il a trébuché par orgueil et à ce moment-là, il a perdu son salut. Alors, cette position, elle prend au sérieux le fait que le texte indique d'abord que Simon croyait et que le texte ne donne aucune indication, dans un premier temps, que cette foi était fausse. Lorsqu'on lit le texte dans l'ordre, on a tout à fait l'impression que Simon est un croyant. Et un plus loin croyant. Le problème, bien sûr, c'est que sur cette question de la perte du salut, la majorité des textes du Nouveau Testament enseignent très clairement que le croyant peut être assuré de son salut. Car celui-ci n'est pas dans sa propre main, mais dans la main du Seigneur, de son Seigneur. Et de toute manière, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous pensez que le Nouveau Testament enseigne la perte du salut, que vous pensez qu'un texte comme Hébreux 6, par exemple, enseigne la perte du salut, eh bien, si vous prenez Hébreux 6, ça ne correspondrait pas à la situation de Simon le magicien. Parce qu'en Hébreux 6, il est écrit qu'il est impossible de ramener à la repentance une seconde fois ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés. Or, à la fin de notre texte, Pierre enjoint clairement Simon à la repentance, au verset 22. Il laisse la porte ouverte, il dit « Reviens de tes mauvaises pensées. » Et Simon comprend bien les choses comme ça, puisqu'il dit « Priez pour moi, je veux pas que ça m'arrive. » Donc, il exprime une forme de regret. Donc, même si on croit que le Nouveau Testament enseigne ça, c'est pas ce qui se passe avec le cas de Simon, puisqu'il n'est pas dans le cas d'Hébreux 6, quelqu'un qui si on estime que le début d'Hébreux 6 parle d'une personne qui a été sauvée et qui perd son salut, eh bien une telle personne ne peut pas être amenée à la repentance. Ça ne peut pas être le cas de Simon, cette interprétation ne peut pas coller. A l'inverse, troisième interprétation, d'autres pensent que Simon était un hypocrite. Il a sciemment contrefait la foi chrétienne Peut-être il a fait semblant de croire en Jésus lorsqu'il a vu que tous les autres devenaient chrétiens. Et donc, il a dit que lui aussi, il allait se faire chrétien. Comme ça, en attendant, il pourrait voir quel profit il pourrait en retirer. Mais en cherchant à acheter la charge apostolique, il se serait trahi et il aurait révélé au grand jour une impiété qu'il n'a pas su masquer bien longtemps. Son hypocrisie s'est vue très rapidement. Le problème ici, une fois encore, c'est que ce n'est pas ce que semble indiquer le texte. Luc rapporte sobrement que Simon a cru ce que disait Philippe. Il n'est pas présenté dans notre texte comme un hypocrite. Alors, je préfère conclure en disant que Simon a réellement cru. Il a réellement et sincèrement été stupéfait par les signes et la prédication de Philippe. Mais cette foi qu'avait Simon, c'est une foi qualitativement différente de la foi qui sauve. Il avait la foi temporaire de la parabole du semeur, qui est bien là, qui grandit un peu, mais qui ne porte jamais de fruits, qui ne dure pas. Simon ne faisait pas semblant, ce n'était pas un hypocrite. Extérieurement, il était comme tous les autres, et en ce qui le concernait lui-même, il se sentait sincèrement comme les autres chrétiens. Le problème, c'est qu'il s'abusait lui-même, il se trompait à propos de son propre statut. Son cœur n'avait pas été véritablement changé, comme c'est le cas des gens qui obtiennent la foi qui sauve véritablement. Écouter un enseignement sur Jésus, être impressionné par des signes et des prodiges, ce n'est pas suffisant pour faire un chrétien. La foi qui sauve, c'est une foi qui se transforme en profondeur, alors que la foi temporaire n'est qu'une foi contrefaite, pas une foi hypocrite, une foi contrefaite, même si elle est contrefaite en toute sincérité. La foi pouvait être contrefaite aussi en Samarie, comme elle l'avait déjà été, à mon avis, aussi à Jérusalem, avec Ananias et Saphira en acte 5. La différence avec Ananias et Saphira, c'est qu'ici, Simon a eu l'occasion de se repentir, alors que Ananias et Saphira, ils sont tombés raides morts. Puisque Pierre lui a proposé de prier pour que l'intention mauvaise de son cœur lui soit pardonnée, si cela était possible. Alors, il ne faut pas comprendre ce texte en disant qu'on ne peut pas être sûr qu'on va être pardonné, qu'on n'est jamais sûr d'être pardonné. Pourquoi est-ce que Paul dit « si cela est possible » C'est parce qu'ici, Pierre ne doute pas de ce que Dieu est capable de pardonner un tel péché, mais plutôt qu'il doute de ce que Simon soit dans les bonnes dispositions pour pouvoir rechercher le pardon. Alors, il y a encore une dernière difficulté dans ce texte, un dernier point d'interrogation subsiste avec la réponse un peu ambiguë de Simon au verset 24, qu'on peut lire aussi bien de manière positive que de manière négative. Il y a des personnes qui pensent que c'est un réel regret, même si c'est exprimé de manière un peu maladroite. Puis il y en a d'autres qui font valoir qu'il n'a rien compris, puisqu'il ne s'adresse pas directement à Jésus ou au Père, il s'adresse aux apôtres, comme s'il avait besoin d'une médiation. Et puis en plus, on voit que sa motivation, c'est la peur d'être jugé, et donc il n'a pas la bonne motivation, c'est pas par amour pour Dieu, c'est par crainte du jugement. Personnellement, je pense avec Calvin qu'il est plus probable que nous ayons ici, chez Simon, une véritable confession de son péché, même si c'est écrit dans... même si c'est dit avec le langage d'un... effectivement, de quelqu'un qui n'a pas encore tous les éléments en place, mais il y a un véritable regret, un véritable remords, à mon avis, une véritable confession des péchés. Et c'est seulement ce qui explique qu'on peut lire une chose plutôt négative dans ce texte, même s'il y a un peu d'ambiguïté. C'est surtout parce qu'il y a une longue tradition dans l'Église primitive qui a fait de Simon, le magicien, l'auteur de toutes les hérésies. C'est écrit comme ça par Justin Martyr. L'auteur de toutes les hérésies qui ont eu cours dans le monde. Donc le pauvre Simon, il a beaucoup sur ses épaules. Et du coup, ça a tendance à nous faire jeter un certain regard défavorable sur cette réponse que nous donne Simon au verset 24. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur ce point. Si vous ne voulez pas me suivre, je ne serai pas dogmatique. Pour le reste, je suis un peu plus assuré, mais là encore, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Conclusion. J'aimerais juste souligner deux choses pour terminer. D'une part, c'est que le texte lui-même nous propose une très belle conclusion. Pierre et Jean rentrent à Jérusalem, au verset 25, en annonçant l'évangile dans les villages samaritains. Et là, il y a un contraste saisissant et magnifique avec leur dernier passage dans ces mêmes villages. C'était en Luc 9, à partir du verset 51, et là il se passe quelque chose de pas très sympa. Jésus demande qu'on lui fasse de la place, qu'on l'accueille dans les villages de Samarie, et parce que lui était en route vers Jérusalem, eh bien il n'est pas accueilli. Alors les apôtres rentrent de la mission en disant ils nous accueillent pas, ils veulent pas nous accueillir, et donc il y a Jacques et Jean, le même Jean qui est dans le texte, qui disent « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel pour détruire les Samaritains inhospitaliers ?» Dans notre passage, qui est-ce qu'on retrouve ? Jean. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'avant, il avait prié pour faire descendre le feu du ciel pour les détruire, là, il prie pour que le feu de l'Esprit tombe sur les Samaritains pour les confirmer dans leur foi. Et maintenant, verset 25, il annonce l'évangile de la réconciliation à ceux qu'il détestait tellement il y a seulement quelques dizaines de mois qu'il était prêt à demander le feu de Dieu pour les détruire. Et il y a là eu un remarquable travail de l'Esprit pour le faire progresser dans la sainteté. Il y a là une sanctification que nous devrions demander pour nous-mêmes lorsque nous voyons ça dans l'ensemble du livre de Luc-Acte, des deux ouvrages de Luc-Acte. D'autre part, deuxième chose que j'aimerais dire pour terminer, ce texte nous interpelle aussi parce qu'il nous met en face d'un croyant qui croyait sincèrement être un vrai croyant, mais qui ne l'était pas. Ce texte nous invite donc à nous examiner nous-mêmes. Il ne faut pas le faire tout le temps, mais il faut le faire de temps en temps, je pense, pour voir si le genre d'ambition que nous avons en nous-mêmes, le genre d'idolâtrie qu'avait aussi Simon, si on a certaines ambitions, certaines idolâtries qui sont encore dans notre cœur, est-ce que peut-être elles ne sont pas le signe que, comme Simon, nous nous abusons nous-mêmes sur notre statut de chrétien. La bonne nouvelle, c'est que si c'est le cas, il est encore temps de revenir de nos mauvaises pensées, de nous en repentir et de prier le Seigneur d'être enfin pardonné en recevant cette fois, véritablement, cet évangile glorieux, un évangile qui se répand inexorablement de Jérusalem, en Judée et en Samarie, dans la Palestine, en Syrie, en Europe, et jusqu'à Rome, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la nature de cet évangile que nous montre ce texte devant celui-là. Je vous propose que nous nous examinions nous-mêmes. Veuille Dieu œuvrer en nous par son esprit et qu'il nous bénisse par sa parole. Amen. Merci, merci.